Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Allez, nous sommes de retour sur Mon Paris FM pour assurer un débrief haut en couleur hein, à la suite de ce match entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Hein, victoire des Parisiens 5-2 avec Barcola, Dembélé, doublé de Kvaratskhelia et Vitinha en buteur pour les Parisiens. Malo Gusto et j'ai oublié le deuxième buteur londonien. Si quelqu'un peut.
Enzo Fernandez.
Merci. Enzo Fernandez. Merci. Donc voilà, 5-2. Les Parisiens qui s'en sortent au bout de l'enfer, hein, puisque voilà le match. Ne faites pas attention au score. Hein, 5-2. Il y a eu 7 buts dans ce match, mais Paris a été au combat tout au long de ce match avec des hauts et des bas, des périodes difficile où le PSG n'a rien contrôlé et puis l'entrée d'un joueur exceptionnel dans les rangs parisiens, en l'occurrence Visha Kvaratskhelia. Philippe, je suis merci à toi de nous avoir rejoint.
T'as bien fait, je suis allé récupérer un petit peu quand même,
oui,
hein.
oui parce que franchement donc, c'était un match vraiment difficile.
Alors c'est vrai qu'on est passé par tous les états dans ce match, oui. Il y a un scénario complètement fou à la fin, parce que faut quand même dire que bon, c'est un petit peu, ça avait baissé de rythme et puis d'intensité dans une bonne partie de cette deuxième mi-temps. Et puis le coaching de Luis Enrique a payé.
Oui, coaching gagnant, hein, en effet, puisque Kanginli est entré, Mayulu est entré, il a été déterminant aussi hein, dans l'état d'esprit pour
malgré
cette fin de match.
Malgré son erreur qui amène le but d'Hernandez.
Oui, tout à fait, il aurait pu avoir trois buts partout, et heureusement, à un hors-jeu près, les Parisiens ont conservé l'avantage avant de... on n'était pas loin du 3-3, et au final, ça a terminé avec une fin heureuse pour les Parisiens. Omar, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match?
C'était un match très âpre. Là, je te rejoins totalement. Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. On a eu un Paris dominant sur l'ensemble, mais très chahuté, avec beaucoup de déchets techniques, mais aussi côté Chelsea, c'est pareil. Là, on a eu Kvaratskhelia qui a vraiment fait une entrée de champion et qui a su faire la différence durant ce match.
Oui, donc ça veut dire que, on prend pas beaucoup de risques en disant que Paris part maintenant dans un avantage très favorable pour le match retour. Hein.
Oui,
5-2, on préfère. Hein.
Après, bon, on va rester prudent connaissant l'histoire de Paris.
Ne rappelons pas de mauvais souvenirs, s'il vous plaît.
Voilà. Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais côté parisien, en tout cas, voilà, le job a été fait. Pour ce match aller, job a été fait et largement fait. Et je voudrais quand même féliciter ces messieurs, notamment Kvaratskhelia qui a fait un excellent match, mais aussi Barcola, qu'on a beaucoup chahuté sur cette début de saison, notamment sur son efficacité. Et là, il nous a mis un banger, excusez-moi de l'expression. Il nous a mis un banger dès le début du match pour lancer cette soirée parisienne qu'on n'est pas prêt d'oublier.
Oui, en tout cas, c'est le match des erreurs quand même, hein, parce que beaucoup de buts ont été marqués pratiquement sur des erreurs adverses.
Après,
pratiquement.
Je me dis, est-ce que c'est pas lié est-ce que c'est pas lié en fait tout simplement à la pression qu'il y a sur le match, ou est-ce qu'il y a eu des approximations techniques dues
beaucoup,
à la fatigue
quand même dans le match.
C'était dur, de pertes de balles des deux côtés, c'était compliqué.
Moi j'avais l'impression que la pression du match, en fait l'enjeu du match, avait un petit peu mis les fourmis dans les jambes des équipes et ça s'est ressenti. Hein. Ouais. Il y a certaines passes, je les ai trouvées très fébriles, que ce soit côté parisien ou côté Chelsea. Hein. Même là, quand on regarde finalement le but de Vitinha, c'est une erreur très bête du gardien de Chelsea.
Bon, mais il marque un beau but, heureusement, parce que dans le match, il avait été un petit peu en retrait.
Ouais, en retrait, mais il finit beaucoup mieux.
Il finit
beaucoup mieux quand même dans ce match. Pareil, vu qu'on parlait de Vitinha, ça aussi, c'est quelque chose qui a manqué au Paris Saint-Germain et qui est arrivé au bon moment. Ouais. C'est cette lucidité devant la cage. On peut mettre en avant le but de Dembélé en fin de première période, où il remonte le terrain quasiment à lui seul, se sert d'Hakimi pour pouvoir truquer l'axe défensif londonien et inscrire le but du 2-1. Ce petit lob aussi pour le troisième but parisien de Vitinha. À quel moment on est censé faire une action comme ça, une action de grande classe? Là aussi, ça a contribué à remettre progressivement les Parisiens dans le sens de l'action. Philippe, moi j'ai quand même une question à te poser. 5 buts à 2. On n'a pas encore fait le tour de toutes les analyses, hein, mais 5 buts à 2. Est-ce que on peut aller sereinement à Stamford Bridge ou
moi
pas?
Je dis oui. Je dis oui. Oui. À 4-2, c'était encore. Il n'y avait pas de certitude. Oui. Parce que quand on voit quand même cette équipe de Chelsea ce soir, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes. Donc, je pense que, ouais, ouf, le dernier but de Varchilla, alors bon, c'est vrai que l'histoire du foot, elle n'est jamais écrite d'avance. Mais enfin, allez, pour reprendre un terme où on est donc en pleine période, ils sont en ballotage très favorable. Très, très favorable.
Et Théo qui est de retour dans le studio. Aucun souci. On en avait tous besoin après un match haut en couleur comme celui-ci. Voilà, je continue mon tour de table. Théo, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, de cette première partie entre Paris Saint-Germain et Chelsea?
Bah écoute, à mi-chemin hein, de ce huitième de finale de Ligue des Champions, je trouve que c'est encore une fois assez compliqué d'analyser ce match parce que les deux équipes n'ont pas proposé le plus beau des footballs, d'accord, hein, parce que techniquement ça a été assez affreux, même des deux côtés, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions. Paris a quand même su profiter sur les rares occasions où ils ont vraiment mis en leur place leur système, a eu des belles occasions, je pense au premier but de Barcola. Le dernier de Kvara, pour moi, c'est vraiment ce que veut mettre en place Enrique, c'est-à-dire que c'est du mouvement perpétuel, des dédoublements, des dépassements de fonction, et on termine dans la surface en 4 ou 5 passes. Quoi. Donc, Paris a quand même été un petit peu au-dessus dans le sens où ils ont contrôlé plus la balle, mais attention, parce que c'est quand même très inquiétant le nombre d'erreurs qu'il y a eu.
Oui.
Là, ça sourit un petit peu à Paris parce qu'il y a ce hors-jeu aussi, on l'oublie, hein, ça peut faire 3-3. Hein.
Oui, mais il est bien dans le jeu, on passe loin du 3-3 en effet. Hein.
Mais oui, je suis plutôt d'accord avec Philippe dans le sens où il y a quand même 3 buts d'avance. On connaît Paris, moi je suis très superstitieux, faut y aller très sérieux, dans la tête, très clean. Mais s'ils font le job, ça va aller.
Le Chelsea ce soir, c'est pas le Barcelone de 2017. Hein.
Voilà. Non, mais même, ils n'ont pas été si impressionnants que ça. Ils ont surtout profité des erreurs des Parisiens, très clairement.
Bien sûr, bien sûr. Et Jack, tu es d'accord avec ça?
Bah oui, je crois que vraiment Paris a, comment dire, ils ont la qualification au-dessus de la tête. À eux maintenant de savoir, de juste faire les efforts nécessaires. Mais je crois que le PSG a été largement dominateur, même si on parle au niveau de la possession, on parle de l'attitude aussi. Parce qu'à un moment donné, ils avaient vraiment levé le pied. Après, Chelsea revenait petit à petit dans le match, mais ils ont réussi à les faire endormir.
Disons qu'ils finissent plus fort.
Avec un coaching qui a été réellement gagnant, parce qu'on ne s'imaginait pas ce que voilà, qu'il fasse sortir Cavatra du bien et qu'il ramène et qu'ils soit en toute confiance et en disant c'est lui vraiment qui vient délivrer en fait tout ce peuple là, parce qu'on attendait vraiment ce petit sursaut d'orgueil là, on l'attendait et il arrive, il le met et tout de suite on sent qu'il y a un changement de jeu dans les attitudes, dans les dépassements de fonction, comme Théo vient de le dire. Quand on regarde vraiment le dernier but qu'il le met en fait, comme on dit, c'est un jeu à trois où Maïlou fait une récupération. Après, il la donne, mais le dernier but, on sent que déjà que c'est en fait, comme on dit, c'est un jeu d'école, le centre de formation. Parce qu'on a Hakimi qui lui a donné 1-2, Maïlou qui l'a fait ressortir. Ensuite, Hakimi qui attaque l'espace avec en se disant que oui, il est confiant. Et juste le dernier geste, il lève la tête, il regarde le positionnement et la place. Il n'a qu'à finir plat du pied.
Centre en retrait, plat du pied.
Puis, on a vu un PSG qui a su rebondir là où on les attendait. Parce qu'on a vu que vraiment la deuxième mi-temps, il avait mal débuté. Ils n'étaient pas là-dedans. Après, on a aussi vu que João Neves, en deuxième mi-temps, il a été plus rayonnant. Il a pu se ratisser le ballon. Il a réussi à mettre de l'impact. Malgré qu'il soit le plus petit détail, il est arrivé à gagner tous ces duels aériens. Ça, c'est déjà une force. Ça montre que ce PSG a du caractère, que ce n'est pas le PSG des années précédentes, ce n'est pas le PSG d'Ancelotti, mais c'est le PSG de Luis Enrique avec une fabrique totale, quelle que soit la difficulté. Le PSG peut être en difficulté, trébucher. Le PSG ne rompt pas, ne plie pas. C'est vraiment, c'est un honneur de voir ce Paris jouer.
C'est pas pour rien qu'ils ont été champions d'Europe l'année dernière. Hein. Ils ont gagné leur match comme ça. Donc ça reste. Hein.
Bah oui, et en plus, c'est un honneur de le voir jouer. On sent vraiment qu'il y a une attitude qui manquait à cet état d'esprit. Luis Enrique, il a inculpé ça aux joueurs, que quelle que soit la difficulté, on a les hommes pour les faire douter. Et ils ont fini par réussir. Et là, c'est un message qu'il lance à toute l'Europe, en se disant que oui, Chelsea avait fait déjouer l'année dernière. Mais là, vraiment, il monte un message en disant que oui, qu'au final, on a pu les battre 5-2. On est quasiment qualifiés. Oui. Mais voilà, il ne faut pas jouer quasiment. Quand je dis quasiment, c'est-à-dire que... Mais sincèrement, je ne vois pas cette équipe de Chelsea. Je vois pas cette équipe de Chelsea aller faire douter de ce PSG. Parce qu'on sait vraiment que le PSG, maintenant, sait voyager. Ouais, auparavant, c'était vrai. Un problème. Le PSG sait voyager. Et quand on sait voyager, et déjà qu'on a 3 buts d'avance, Luis Enrique était que je connais. Ouais, il y a des chaînes tactiques qui a déjà préparé. Et là, le match retour, il se prépare dans les coulisses. Ouais.
En tout cas, soirée de Ligue des Champions, très difficile pour les Anglais de manière générale, que ce soit Liverpool hier, Arsenal aujourd'hui, et City.
Combien ils ont pris là ? 3-0, non ?
3-0.
C'est resté à 3-0.
Pour le fait de sa majesté, ça fait très mal.
3-0.
Et encore, ça s'ajoute à la débâcle hier de Tottenham face à l'Atlético Madrid.
Alors qu'ils ont 6 représentants quand même.
Et pour être tout à fait complet sur les résultats du soir.
Vas-y, donne les résultats.
Je vais les donner en ordre. Donc Leverkusen 1 partout face à Arsenal à domicile. Bodo Glimt 3-0 chez eux contre le Sporting.
Incroyable.
Donc ils sont quasiment qualifiés là. Paris-Chelsea 5-2, on l'avait dit. Et Real-Manchester City 3-0, alors qu'on annonçait le Real un petit peu plus en difficulté.
Et tu peux rappeler les résultats d'hier. Justement, on parlait des Anglais pour rappeler à ceux qui...
J'y vais tout de suite. Liverpool chute à Galatasaray 1-0. Tottenham 5-2 face à l'Atlético au Metropolitano.
Club anglais.
Newcastle 1 partout face à Barcelone chez eux. Bon, s'ils sont fait rejoindre à la dernière minute, et ils ont plutôt dominé le match pour être totalement franc avec eux. Et enfin, Atalanta, Bayern Munich 6-1. L'Atalanta est un petit peu compliqué. C'est compliqué pour eux là.
Et comme quoi, le nombre de clubs anglais ne signifie Absolument. Pas forcément une domination, une hégémonie. Hein, puisque sur les 6 clubs engagés, ça fait 2 nuls et 4 défaites. Et des lourdes défaites. Donc, attention.
2-5-2.
2-5-2, franchement, c'est
1-3-0.
2-5-2 et 1-3-0. Bon, après le 3-0, il est un peu plus explicable quand même, puisque ça reste le Real Madrid en face. Mais tout de même, 3-0, c'est compliqué.
Pas grand monde voyait le Real mettre 3-0 à City dans leur état de forme, avec tous leurs absents surtout.
Tout à fait, oui. Parce qu'en plus, Kylian Mbappé n'était pas là.
Mbappé n'était pas là. Rodrigo est blessé.
On s'inquiète un peu.
C'est une vraie surprise.
Rodrigo non plus. Donc,
il y avait une vraie surprise.
En plus, quand on regarde la compo d'équipe, Abel Ouel était parti sur un 4-4-2 où il y avait Brahim Diaz à côté de Vinicius. Donc, du coup, il y avait Valverde qui avait plus de l'espace. C'est pourquoi, quand je regarde les stats, il a étrillé toutes les stats. En plus, je crois que vraiment, il a marqué des buts. C'est vraiment, comme on dit, Guardiola, je crois qu'il est temps. Qui pense à autre chose, qu'il est temps de se réinventer. Il est temps de se réinventer parce que son fameux coaching, il commence à être à découvert, tout le monde commence à le connaître. Donc, à un moment donné,
c'est pas facile de remplacer des profils comme Kevin De Bruyne, par exemple. Je ne cite que lui.
Ouais, il n'y aura jamais de Kevin De Bruyne, comme Kevin De Bruyne. Mais après, vraiment,
c'est. Aguero aussi, par le passé.
C'est de s'adapter à des profils pas similaires, peut-être des profils différents.
Tout à fait.
Mais le même registre et le même impact. C'est ça la différence. Comme on le dit, c'est la différence entre les grands entraîneurs et les super entraîneurs.
Ouais,
comme on parle d'Ancelotti, par exemple. Là, le débat, je ne vais pas le déplacer. Ancelotti. Parce que voilà, qu'Ancelotti, que tu le mettes un joueur moyen ou un super joueur, c'est des gens qui savent transcender les joueurs. Qui savent avoir peut-être le discours pour. Parce que tout vraiment ne se joue pas sur l'aspect tactique. On néglige un facteur qui est important au football, c'est le mental. Cette équipe du PSG, mais c'est au mental qu'elle gagne ce match.
Oui,
c'est au mental qu'elle le gagne. Parce qu'il y a eu des périodes de doute. Il y a eu des périodes même, ils n'arrivaient même pas à faire des contrôles. Hein. Vous imaginez qu'un joueur comme João Neves peut louper un contrôle. C'est très rare sur la palette depuis son arrivée au PSG. Donc ça prouve que le mental, c'est l'aspect le plus déterminant.
C'est ce qui fait la différence dans le sport.
Dans la vie de tous les jours, il faut un mental.
On a été dégraissé d'aller aussi loin, même s'il est vrai, tu as raison. Je vais quand même revenir sur le Paris Saint-Germain parce qu'effectivement, le résultat, il est très important. Il est rassurant pour le Paris Saint-Germain en vue du match retour. Mais il y a quand même des points négatifs à noter. Il y a beaucoup de points négatifs. Je voudrais commencer par le plus évident, Désiré Doué. Que retenez-vous de son match ce soir, sorti à l'heure de jeu?
Brouillon, beaucoup de TG technique, pas dans son match. Et voilà, je pense que sa prestation parle de lui-même et il remet Chelsea en selle, cerise sur le gâteau, enfin à l'envers pour lui.
Il y a encore quelques mois pour la Coupe du Monde, mais il faut être inquiet quand même.
Là, moi franchement, Désiré Doué.
Ouais.
Justement, s'il vous a pas convaincu, moi je pose la question là ce soir, est-ce que sa place de titulaire au sein du Paris Saint-Germain est menacée en vue de la fin de saison?
Oui.
Je dirais oui, parce qu'avec cette concurrence qu'il a avec Cavachera et aussi Barcola, donc du coup, on sait que vraiment le PSG, c'est une équipe où rien n'est joué d'avance. Avec Luis Enrique, à tout moment, tu peux cirer le banc comme un titulaire. Je crois que oui, ça, vraiment, mais ça, comme on dit, sa titularisation, en fait, sa place est-elle remise en jeu?
Oui, il va être en joker. Ouais. Ça est déjà arrivé d'ailleurs.
Tu le vois en joker à la fin de la saison.
Oui, je pense qu'il peut tourner avec Varache qu'il y a, avec Barcola, et puis avec Lee ou Mayulu, parce qu'en plus il peut jouer à tous les postes. Hein,
c'est vrai.
Non, il est possible que, peut-être même contre Chelsea mardi prochain, Doué soit sur le banc au départ.
Mais là, il y a un problème, parce que Doué, à chaque fois qu'il était sur le banc, qu'il est rentré, il était ultra décisive.
Ouais, bah oui.
C'est un atout aussi du PSG.
Souvent
on remarque que les remplaçants font plus le taf que les titulaires. Parce que là, quand on regarde le match de ce soir, tous les changements de Luis Enrique
ont été
importants.
Que ce soit
au milieu de terrain, que ce soit en attaque, tous ces changements étaient importants.
Bien sûr.
Et même on regarde avec la rentrée de Lucas Hernandez, ça solidifie derrière. On a senti vraiment que là, le PSG a été serein dans l'aspect défensif.
Là où
on penchait en première mi-temps, on avait Marquinhos qui était un peu dépassé, mais qui a pu se rattraper en assurant des tacs propres, avec des relances et tout ça, en étant au marquage. Et là, on a vu que João Pedro, il a été éteint.
Ah mais João Pedro, il a fini dans la poche arrière droite de Pacho sur ce match.
La satisfaction de ce soir, ça a été Pacho. Comme toujours, comme d'habitude, mec très propre, classe, élégant. Qui sait vraiment. Crois que Pacho, pour moi, ça serait peut-être un futur capitaine, un futur leader. Pas leader dans le vestiaire ou en prise de parole, mais leader en fait dans l'attitude.
C'est vrai
dans
qu'il
la culture de la gagne.
Il est toujours constant.
Un mec discret qui parle peu, mais qui sait aussi qui sait comment en fait. Mener le bateau à bon port, on le dit.
Finalement, maintenant que tu le dis, c'est un débat qui a souvent été mis sur la table pour l'après Marquinhos, le fameux brassard de capitaine en termes d'attitude, de leadership dans le vestiaire. On a beaucoup entendu Hakimi, on a beaucoup poussé pour Vitinha aussi. Là, c'est encore Pacho.
Ils l'ont été tous les deux.
Là, on parle de Pacho ce soir par rapport à la sérénité qu'il pose sur le terrain à chaque match, peu importe, que ce soit Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas, au final, la vraie force du Paris Saint-Germain? C'est-à-dire que personne ne se met plus en avant que l'autre, et surtout via les entrants, que le Paris Saint-Germain ne joue pas que à 11 ou à 14, mais à bien plus.
C'est pour ça qu'ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Voilà. Pour la première fois, le club est devenu plus important que les joueurs. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont gagné,
ça,
effectivement.
Non,
mais c'est vrai.
Oui.
C'est comme ça qu'ils ont gagné.
Ouais,
ce qu'ils n'arrivaient pas à faire les années précédentes. Et puis il y a eu une brusque métamorphose. Je pense que Campos, le directeur sportif, y est pour beaucoup. Et donc ça explique aujourd'hui que le Paris Saint-Germain, ils ont gagné la Ligue des Champions, et puis qu'ils arrivent à redresser des situations dans des matchs comme ça où il y a encore quand même beaucoup de choses à dire. Alors après, on sait que nous, les journalistes, on veut toujours aller plus loin des événements. On verra en quart de finale. Il y aura peut-être beaucoup de choses à travailler puis améliorer si on veut aller plus loin, mais voilà, ça après, explique après, en tout cas la réaction du Paris Saint-Germain ce soir.
Après, pour moi, je suis d'accord avec aussi, je rejoins Shenkenza, il y a un aspect mental, mais il y a aussi l'expérience.
Oui,
là où Paris avait l'habitude de flancher, je pense que vraiment là, ils ont passé un cap, parce que les moments difficiles, moi, il y a 5-6 ans, on m'aurait dit Paris Saint-Germain, ils étaient dans cette situation-là. Je pense que Paris aurait perdu ce match ce soir.
Oui. Ah oui, ça c'est vrai.
Ça
va avec l'année dernière. Et pour moi, je pense aussi, il y a ce côté expérience. On sent qu'il y a le collectif a mûri.
Les sportifs de haut niveau, ils sont tous motivés quand ils veulent gagner.
Bien sûr.
Le problème, c'est la gestion de l'événement.
Tout à fait.
C'est la gestion de l'événement. Voilà. N'importe quel sportif, c'est une finale olympique, une finale de Coupe du Monde, c'est la gestion de l'événement. Voilà. Et Paris, ils avaient un problème avec la gestion de l'événement, alors qu'ils sont tous motivés, ils veulent tous gagner les matchs, ils font tous les plus grands matchs, ils jouent tous dans les plus grands clubs. Mais à un moment, c'est la gestion de l'événement. Et ils ont pris cette dimension-là l'année dernière.
Philippe, je te rejoins tout à l'heure quand tu as dit en fait qu'il y a le collectif qui a commencé à primer. C'est normal pour toute grande équipe, il se doit d'avoir en fait une valeur d'éthique en se disant que les entités passent, mais l'institution demeure.
Oui, mais c'est ce qu'ils avaient oublié pendant des années, le PSG.
Et le PSG, qu'on le veuille ou pas, c'est une institution. aujourd'hui, en fait, c'est le club de la capitale. Ouais. Quand on regarde le PSG, c'est top 5 club mondial. Oui. C'est un club qui glane des titres. Ouais. Et c'est un club, en fait, qui a pu atteindre, qui a pu percer ce plafond de verre qui était la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, en fait, c'est une institution. Et quand on est dans une institution, on est obligé de se plier aux règles de l'institution. Donc là, aujourd'hui, je te parle, aucun joueur qui viendra après cette décennie ou dans 30 ans ou 40 ans ne pourra marcher sur le PSG, comme certains joueurs l'ont fait, avec des égos démesurés, on se croit même. Non, mais là c'est fini, ça. Là, c'est fini, le club med, il est fini. C'est le PSG, c'est un club avec des valeurs, c'est un club où on sait se faire respecter, et dorénavant, le blason, il est redoré. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui viendra me dire que lui, je suis une star. Ouais. Non,
c'est pour ça
pas.
Que quand tu arrives au Real Madrid, quand tu arrives au Bayern de Munich, tu prends toujours la culture des clubs, du club, tu es obligé. Ouais. T'es obligé. Et effectivement, tous ceux qui arriveront dans quelques années au Paris Saint-Germain, ils prendront la culture du Paris Saint-Germain. Après, il y a des générations moins bonnes que d'autres, donc des résultats un petit peu plus en dents de scie. Mais cette culture, elle leur permet toujours de revenir un jour ou l'autre au premier plan.
Et à ce propos, là, je vais terminer sur la position de gardien de but, parce que c'est quelque chose qui m'a titillé sur ce match. Les buts encaissés, d'un côté, Safonov qui fait une faute de main, hein, il faut le dire, sur un des deux buts encaissés lors de ce match. De l'autre côté, Jorgensen qui joue avec le feu, avec deux crochets sur Barcola, deux crochets très heureux sur Barcola. Et derrière, il prend un but sur un pressing, sur un pressing parisien, pressing collectif. Est-ce que sur les deux matchs, les gardiens ont montré des signes de fébrilité qui peuvent jouer sur le match retour, d'après vous?
Bien sûr. C'est pas les deux meilleurs gardiens qu'on a vus ce soir sur ces matchs de Ligue des Champions. Hein. C'est sûr. Hein. C'est pas le Donnarumma de l'année dernière, même s'il y avait aussi parfois des loupés de Donnarumma.
Oui, parce que ça va faire débat, aussi.
Non, mais bien sûr, ce soir, c'est pas les deux meilleurs gardiens qu'on a vus. Après, si ça se trouve, ils vont être héroïques en quart de finale ou la semaine prochaine, hein, ça veut rien dire. Hein.
Donc, est-ce que, Safonov, est-ce qu'il vous a rassuré? Est-ce que Jorgensen n'en a pas trop fait?
Oui, dans l'ensemble. Jorgensen, il en a bien fait, parce que deux, trois fois, bon, il s'en est tiré, mais ça marche pas tous les
coups. Dans l'ensemble, Safonov, je l'ai trouvé assez propre.
Oui,
sauf. Mis à part, il peut faire évidemment mieux sur ce but. Hein.
Après, bon.
Il n'a pas la main ferme, néanmoins. Ouais. J'ai trouvé que dans le jeu au pied, il a été plutôt bon, dans le sens où quand il fallait allonger, il a su le faire de manière assez précise d'ailleurs. Et il a été, entre guillemets, décisif au moment où il voulait, notamment sur des sorties un peu lointaines, même si c'est pas académique, ça reste efficace, il se trouve pas, alors que les mecs, c'était une passe en profondeur, donc c'était très dangereux. Et il a été décisif sur le but de Dembélé pour le 2-1. Il fait, mine de rien, il fait l'arrêt qu'il faut au moment où il faut.
Après, bon, quels sont les grands gardiens qui n'ont pas fait une seule erreur dans la
carrière? Après, il faut pour moi souligner, même si moi j'ai trouvé ces sorties, peu académique, il les a fait, fallait le faire.
Oui, il y en a une qui est déterminante.
Malgré la première qui n'est pas superbe, il continue d'y aller.
Oui, malgré exactement que la première n'était pas superbe, il continue d'y aller. Malgré sa faute de main, moi je retiens surtout son action où il arrête la frappe de Cole Palmer et juste après il y a le but de Dembélé. Et pour moi ça change tout parce que tu peux partir à la mi-temps potentiellement avec un 2-1 pour Chelsea et c'est pas la même histoire. Je pense que là Chelsea joue différemment le coup.
Oui, tout à fait.
C'est là que le rôle des grands gardiens est important.
C'est vrai. Ouais.
On en parlait en plus à la mi-temps, le fameux arrêt Ligue des Champions. Là on l'a vu avec Safonov. Donc petit tour de table, petit tour collégial pour vous. Le débat du gardien de but en Ligue des Champions, en Ligue 1, il est enterré définitivement ce soir avec Safonov devant Chevalier.
Il était déjà enterré avant ce match de toute façon, donc pas photo.
Mais moi, je crois que on peut pas dire qu'il est enterré parce que Seth Savonov a pris.
La contradiction, j'aime bien.
Ouais, Seth Savonov, il a pris une grande avance. On peut pas parler de légère avance parce que là, il joue quasiment tous les matchs. Mais je crois que Chevalier, en tant que bon compétiteur, il peut revenir à n'importe quel moment. Ça peut se jouer un match, ça peut se jouer sur une blessure. Et pourquoi pas, si le PSG doit gagner un deuxième titre compétitif, je crois que Chevalier peut-être l'un des artisans de ça. Donc, on a déjà vu par le passé où des gardiens ou peut-être demi-finale blessure. Je crois que le débat n'est pas encore enterré. Ouais, Chevalier aura certainement sa chance, mais à lui vraiment de la saisir, parce que c'est très rare qu'on lui accordera une troisième chance.
S'il n'y a pas de blessure, Safonov, il finira la saison.
Oui.
s'il n'y a pas de blessure. C'est jamais bon hein, pour une équipe de mettre deux gardiens en concurrence. Il faut toujours un titulaire, un numéro 1 et un numéro 2. Alors, il peut arriver que parfois le numéro 2 prenne la place du numéro 1 en courte saison. C'était le cas en Coupe du Monde en 98 où Barthez il avait pris la place de Bernard Lama. Mais d'une façon générale, je pense que là, les positions, elles sont actées pour la fin de saison pour le PSG.
Donc,
qui va d'ailleurs poser problème à Chevalier hein, pour l'équipe de France. Hein.
Parce que justement, j'allais y venir, vu que Chevalier il a perdu sa place de titulaire au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il sera toujours appelé dans la fameuse liste pour la Coupe du Monde d'ici la fin de la saison?
Il peut être appelé comme troisième gardien.
Comme troisième gardien, bien sûr.
Accompagner
parce qu'il y a une concurrence qui pousse derrière. Je pense à Jean-Baptiste, à Côme. Maïpignon est titulaire, ça c'est sûr.
Alors, il y a une chose énorme, c'est que Samba, il n'est pas.
Il n'est pas à 100%.
Oui, il n'est pas à 100%. Donc,
Samba n'est pas à 100%. Il y a Jean Butez aussi qui pousse, hein, le gardien français de Côme en Italie.
S'il n'a pas fait un match ou qu'il n'a pas été dans le groupe, c'est difficile de l'emmener sur un mondial.
Bien sûr. Ouais. Donc,
franchement, à part Maignan qui a de l'avance, le reste, c'est pas aussi. Voilà. Mais après, moi aussi, je m'inquiète aussi. Du coup, pour l'équipe de France, pour gagner une compétition, on le voit même en Ligue des Champions, il faut souvent un grand gardien et un grand attaquant. Si l'équipe de France, on a de très bons attaquants devant, mais si on n'a pas le gardien qui fait les arrêts décisifs.
ça sera mignon de se mettre en valeur.
Voilà, ce sera compliqué. Mais pour notre ami Chevalier, je ne dirais pas que sa place est menacée, mais je ne pense pas qu'il. Qui part, on va dire, avec les avantages.
Moi je pense pas qu'il reviendra titulaire. Alors, il jouera peut-être un match de championnat, peut-être. Mais je pense qu'on est mi-mars. C'est acté maintenant pour la fin de saison. Hein. Il reste 2 mois avant la fin du championnat. Ouais. C'est acté. Hein.
Ouais, sachant qu'on est à la mi-mars, deux mois et demi rapide, ça va aller très vite. Hein. 9.
Accepté, ouais.
Messieurs, merci pour cette page très complète sur ce PSG Chelsea.
On va rappeler les buteurs pour ceux qui nous ont donc pris en cours de route. Donc, on va quand même rappeler que c'est Barcola qui avait ouvert les hostilités, 10e minute, suivi par Dembélé, 40e minute. Entre-temps, il y avait Gusto qui avait égalisé à la 28e minute. Et puis on s'est fait peur, puisque Enzo Fernandez à la 55e, parmi les deux équipes, donc à deux partout, avant un final extraordinaire du Paris Saint-Germain. Vitinha 74e, Varaschkivia 85e, et puis donc 93e dans le temps additionnel, une nouvelle fois donc le Georgien Varaschkivia. Voilà, donc du coup. Théo, et puis là, vous allez pouvoir recommenter le match. Hein. Le mois prochain, je pense que ça y est. Hein.
Paris, un
duo aîné, alors.
on va pas porter la guigne et la poisson Paris Saint-Germain. Il y a un match retour, on l'a vu par le passé. Il faut être très sérieux, on sait jamais à Londres.
Mais, attends, heureusement qu'il y a cette nouvelle formule. Hein. Ça oblige Chelsea à marquer 4 buts.
Oui, parce qu'il n'y a pas les buts à l'extérieur maintenant.
Il y a une formule, un 3-0
3-0,
ça peut encore.
C'est faisable. Et là, il passait au match.
Ça oblige un 4-0, là.
Hein. Ouais. Ouais.
Ouais, donc voilà, donc on peut remettre là. Ça a été.
On espère que les auditeurs ont passé un beau moment, surtout en notre compagnie. Nous, on s'est régalé sur le plateau.
Ça
analyse pas mal d'émotions.
C'est pour une première, franchement. Chapeau bas, messieurs.
On a été plus que chanceux pour le coup.
Ça fait plaisir de voir un match avec plein de buts. Et justement, c'est pour ça qu'on aime aussi le foot. C'est pour ce genre de match, bien évidemment.
Évidemment.
Bon, belle soirée alors,
merci
monsieur.
Beaucoup. Ouais.
Merci à toi, fils.
Merci.
Merci Willy
pour la réalisation.
À la manette, pour la réalisation.
Et plus que jamais, vive Paris Saint-Germain.
Paris.
Et pour reprendre mon ami le football. Christophe Paco, plus que jamais, vous êtes sur mon Paris FM.
Bien vu ça.
Merci beaucoup, Philippe, pour ce dernier mot. Allez, en musique là-dessus. Allez. Bonne soirée à tous sur mon Paris FM.
Quand c'est cassé, c'est cassé. y a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher mais y a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouce. Tout le temps elle parle d'amour, elle veut faire tout pour nous. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, hein. C'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. C'est qu'on est bon qu'à ça, ouais. Oh.
J'arrivais tout s'éteint, tout est plein, fais en un, je suis pas au Malais. J'ai jeté le show pour dans l'allée. Elle veut se caler, mais je suis légendaire comme Pépé Calé, c'est pas comme ça.
Pas de sentiments, c'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage que mon œil, j'étais chaud, chaud de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé
Pas mauvais, pas de sentiments. C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage que mon œil, j'étais chaud, chaud de son passé.